Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de sortir du capitalisme autour de Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive, publiée aux éditions Entremonde et Sénonévéro une première fois en 2013, et republiée dans une nouvelle édition, enfin une nouvelle maquette au moins, ces jours-ci. Alors, du coup, on a présenté assez largement les thèses, l'intention de l'ouvrage. Maintenant, je pense que ça serait bien de revenir un peu sur un peu sa théorisation, parce que sans rentrer dans des points de détail, on ne reviendra pas sur la question de la précision historique des faits, du fait que c'est un ouvrage militant. Je pense que ça, on en a déjà parlé suffisamment la première partie. Là, ce serait plus, du coup, une discussion autour de la théorisation du capitalisme, de la périodisation du capitalisme, de la périodisation du patriarcat, de l'interrelation entre le capitalisme et le patriarcat. Ce que je serais tenté de faire, ce serait de relire Caliban et la sorcière en posant un cadre théorique un peu différent. Ce serait que Caliban et la sorcière, ce serait la transition, enfin le récit de la transition, non pas du féodalisme au capitalisme, mais du féodalisme à l'ancien régime. C'est une proposition qui est assez rare dans le marxisme, le fait de mettre une sorte de mode de production intermédiaire entre le féodalisme et le capitalisme, c'est-à-dire qu'on a déjà une transformation très importante du 15e au 18e siècle des rapports sociaux, les marchés prennent une place beaucoup plus importante, la monétarisation de la société, la commercialisation de la société. Il y a également une restructuration politique avec la monarchie absolue, les impôts explosent. Enfin, évidemment, il y a des transformations sociales qui sont très importantes. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée d'un long Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en gros, du 5e au 18e siècle, globalement, c'est la même formation sociale. Et je pense quand même qu'il faut penser quelque chose qui est au milieu. C'est ce que notamment fait un universitaire, marxisant, disons, qui s'appelle Jean-Yves Grenier, qui a écrit un ouvrage relativement invisible d'ailleurs, qui s'appelle l'économie.
Non traduit donc.
C'est ça. L'économie d'Ancien Régime. Alors il y a quand même un article d'Alain Guéraud qui s'appelle Avant le marché, les marchés, 13e, 18e siècle, qui revient un peu sur le bouquin de manière accessible. Mais en gros, lui, ce qu'il pense, Jean-Yves Grenier, c'est qu'il y a vraiment une sorte de mode de production intermédiaire entre le féodalisme et le capitalisme, et qui est basé, ok, sur des marchés, mais sur des marchés qui sont hiérarchisés. Ok, sur effectivement une société qui n'est plus vraiment le schéma féodal, le seigneur et les serfs, mais on n'est pas uniquement dans une détermination par rapport à la place dans le processus de production, mais il y a aussi toujours les logiques aristocratiques qui continuent d'exister. Et enfin, ça c'est quelque chose que je pense que c'est important à mettre en avant, c'est qu'on n'est pas du tout dans une société capitaliste avec un marché unifié, qui est avec une concurrence massive, une augmentation de la productivité permanente. Mais par exemple, pour prendre le cas de la France, au XVIIIe siècle, il y a des centaines de codes de loi, il y a des frontières douanières, les villes ont des privilèges, tous les énormément de corps constitués ont des privilèges, qui fait qu'ils sont pas vraiment sur le même marché. Les biens sont, il y a des sphères de transaction plus ou moins étanches. Enfin voilà, on est dans une logique différente du capitalisme. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne à penser sur Caliban et la sorcière? C'est que je pense que quand elle parle du capitalisme, elle parle plutôt de l'Ancien Régime, qui est effectivement une société qui ressemble beaucoup plus à la société capitaliste que le féodalisme, ça c'est clair, et qui d'autre part nous prépare historiquement. Rétrospectivement, on peut dire que l'Ancien Régime a été une étape vers le capitalisme. Mais après, est-ce que c'était une étape qui devait nécessairement mener au capitalisme? Moi je pense qu'il faut être assez prudent là-dessus. Sur une espèce de déterminisme, de cette espèce de téléologie hegélienne où on aboutirait nécessairement...
Tu n'es pas le seul à être prudent là-dessus, je pense. La prudence à cette matière est quand même très très répandue, heureusement.
C'est ça, voilà, il faut être vachement prudent.
La question de la nécessité est assez brûlante.
Voilà, du coup, ce que je pense, c'est qu'on pourrait peut-être relire cet ouvrage comme le passage historique donc de la société féodale à la société d'Ancien Régime, mode de production féodal au mode de production d'Ancien Régime, et du coup en lien avec la transition du patriarcat médiéval où malgré tout les femmes conservent dans une mesure assez relative mais quand même le contrôle de la reproduction et notamment de l'accouchement à une phase qui serait le patriarcat d'Ancien Régime où là les femmes ne maîtrisent plus ce procès de reproduction. Et pour prendre un autre exemple qui n'est pas du tout évoqué dans le livre, mais qui traduit, j'ai l'impression, un peu à un niveau plus idéologique, cette mutation, ce passage de, du patriarcat, du Moyen-Âge au patriarcat d'Ancien Régime, c'est l'histoire de l'Académie française qui supprime tous les noms, enfin, tous les féminisations des noms de métiers, poétesse, philosophesse, et qui traduit bien cette espèce de, un peu de coup de force patriarcale. Alors qu'évidemment, avec l'Académie française qui est vachement condensée, quoi, qui n'est pas des processus historiques qui s'étendent sur des longues périodes, mais je trouvais que, voilà, peut-être on pouvait relire ça comme ça. Et aussi, sur la question, du coup, on a beaucoup parlé de la question de la reproduction. Moi, du coup, j'aurais relu la question, la prise de contrôle sur la reproduction. Alors évidemment, bien sûr, ça va arranger le capitalisme d'hériter de ce contrôle patriarcal sur la reproduction, puisque évidemment le capitalisme en même temps est malthusien, mais en même temps il est nataliste, il veut de la production prolétaire, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, où il y a toujours tout un tas de mécanismes financiers qui incitent à la procréation. Je pense que pour la période qu'elle étudie, je pense qu'on peut relier plutôt ça au mercantilisme, c'est-à-dire sur le fait qu'il faut produire des sujets fiscaux. Et il faut produire des gens qu'on va pouvoir enrôler dans les armées. Alors, ce n'est pas des armées encore de masse professionnelle, mais j'ai l'impression que l'enjeu, il est plutôt fiscal à cette époque. Évidemment, il est aussi économique. On cherche à sortir du rapport de force avec peu de paysans. Donc, les seigneurs sont obligés de leur accorder des rentes relativement basses. Enfin, les redevances féodales, disons, sont basses. Évidemment qu'il y a ça. Mais je pense, du coup... relié voilà, à ça. Après, j'ai d'autres remarques, notamment la question d'un prolétariat avant le capitalisme, qui est quand même un peu difficile. Pour finir sur la question retour de l'accumulation primitive, je pense qu'effectivement, on peut dresser des parallèles historiques entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé il y a 5-6 siècles, mais je pense qu'il faut peut-être être un peu plus prudent que Federici.
Juste pour dire peut-être quelque chose sur spécifiquement la question de la périodisation et de la transition. C'est vrai que chez Federici, il y a les problèmes que tu soulèves, à mon avis, sur cette question-là. Et d'ailleurs, de sa part, il y a presque un espèce d'éclectisme dans ses références pour penser la transition, puisqu'elle fait référence même du coup à Robert Brenner à plusieurs reprises, et du coup à l'école du marxisme politique, qui a le mérite, à mon avis, cette école-là, de faire découler le capitalisme vraiment d'une structure de classe et de donner une centralité, un caractère primordial au conflit de classe dans la genèse du capitalisme, plutôt qu'une lecture en termes de pure extension d'un marché, d'un capital commercial qui serait toujours déjà là et toujours présent, en attente de se manifester et de recouvrir la surface du globe, et que du coup voilà, les différentes bourgeoisies commerçantes fomenteraient des révolutions bourgeoises pour faire tomber les obstacles à cette extension. Et à la place de ça, il met clairement l'accent sur l'état de la lutte des classes dans l'Angleterre agraire du XVIIe siècle
et les régimes de propriété.
Et les régimes de propriété spécifiquement, et de là la dynamique spécifique, contrainte à l'accumulation liée à la concurrence et du coup au développement technologique, et du coup qui donne ce caractère voilà, d'avant-garde historique à l'Angleterre à un moment, et qui à partir de là va voir son modèle se diffuser à l'Europe puis au monde. Et du coup c'est une thèse qu'elle ne reprend pas, alors qu'elle garde cette idée de Brenner de la centralité des, justement pour justifier aussi le fait que le capitalisme serait issu d'une contre-révolution, issue des assauts des classes exploitées et dominées du féodalisme. Et en lieu et place de ça, finalement, elle prend un récit ou une narration de la transition plus, entre guillemets, classique que, voilà, Brenner dirait même qu'elle est presque un peu smithienne à la fin des fins, dans le sens où il y a, voilà, le capitalisme est beaucoup trop, à mon avis, identifié à des phénomènes de marchandisation, de privatisation d'une partie des ressources, d'une partie des terres, de déstructuration de l'économie de subsistance, etc., etc., sans forcément que ces processus attaquent directement le rapport de classe en ce qu'il est un rapport aux moyens de production et un rapport à la production même de la richesse. Par exemple, est-ce que c'est suffisant qu'une économie soit massivement monétarisée pour parler de capitalisme ? À mon avis, non. Parce que si la monnaie a pour seul rôle finalement de payer l'impôt, comme ça a été le cas notamment dans ce mode de production d'ancien régime ou mode de production absolutiste, finalement il reste périphérique au processus de production puisqu'il permet juste de se dégager d'une contrainte à fournir un surproduit à l'État sous forme de denrées et à la place de fournir un équivalent en argent. Mais finalement, le processus de production lui-même n'est pas, entre guillemets, marchandisé. Y a cette question vraiment du saut qualitatif qui est très important chez Marx, avec la question de la marchandisation de la force de travail elle-même, et pas uniquement de son panier de subsistance. Et à mon avis, c'est une des raisons principales pour lesquelles, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, que pour lesquelles on peut parler de... Voilà, il y a quelque chose comme une longue transition, il y a quelque chose comme un mode de production intermédiaire. Et Federici, je pense, fait partie de toute une série d'auteurs, de théoriciens aujourd'hui qui cherchent vraiment à comprendre la transition, mais du coup qui ont tendance à mon avis, à la faire remonter un peu trop loin dans le temps. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, de la question coloniale, typiquement. Elle embraye le pas aussi à toute une série d'analyses qui lient de manière tellement stricte capitalisme et colonialisme que la première vague de colonisation est considérée elle-même comme des sens capitalistes. Alors que, à mon avis, il y a une différence radicale entre la première colonisation du hispano-portugaise et la seconde, qui est principalement franco-britannique. Et ce qui fait cette différence radicale entre les deux, c'est justement le caractère capitaliste. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la première colonisation est capitaliste en tant que telle ? Après, qu'elle pose les bases, que là-dedans, il y a une première accumulation de ressources qui seront peut-être réinjectées par le biais de la finance naissante, par le biais de la Hollande, par les provinces unies à l'époque, vers l'Angleterre, pourquoi pas. Mais en tout cas, on n'en est pas encore au cœur de ce qui fait, à mon avis, le capitalisme, qui est l'exploitation de la force de travail en tant qu'elle est une marchandise.
Après, juste une chose, c'est que dans ce qui fait l'entrée dans la possible périodisation qui est la sienne, les fameux coups de boutoir du 15e siècle, 15e, 16e siècle, sont des actions, disons, de protoclasse. C'est-à-dire qu'on peut aussi, il me semble qu'elle essaie aussi de tirer du côté de la définition de la classe à partir de son action. Et du coup, c'est prendre les choses d'un autre biais, et c'est intéressant de vouloir définir le rapport de classe à partir de son mouvement. Et donc là, y a-t-il un lien possible, posable, montrable, analysable, entre la reproduction et les mouvements, sinon de classe, au moins massifs, collectifs, de cette période-là ? Et je crois qu'elle essaye de rentrer à partir de ce biais-là, et de dire qu'elle tire du côté de la surpopulation, qui est une chose qui revient actuellement. Enfin, je pense que cette idée de surpopulation, population excédentaire, comme pression et comme moteur d'une certaine action de classe, elle fait une entrée à partir de là, il me semble, non ?
Oui, après, oui, je pense que ça fait partie des choses qu'elle doit à l'opéraïsme, c'est vraiment cette centralité de l'activité de classe en tant que toujours antagoniste, c'est-à-dire que les classes ne précèdent pas la lutte des classes, mais c'est la lutte des classes qui explique et éclaire les classes, et du coup, voilà, une lecture qui peut même aller jusqu'à dire que finalement, en tant que sujet politique et historique, les classes ne se constituent que sous la pression de la lutte des classes, voire même que c'est bien les classes dominées, exploitées, subalternes, pour employer prolétariat, puisque ce serait un anachronisme, qui engendrent leur classe dominante ou leur bourgeoisie en tant que, avec la pression qu'ils exercent sur elle par leur lutte, lui font prendre conscience de son intérêt collectif en tant que classe. Et que du coup, il y a une primauté de la lutte. Et c'est vraiment, je pense que c'est, au-delà de la question de la périodisation, je pense que c'est tout de même un des aspects qui est intéressant dans le livre de Federici, c'est vraiment le choix de mettre l'accent sur l'activité de classe comme moteur de la périodisation, des transformations, de la restructuration, qui fait que, même si elle fait démarrer trop tôt le capitalisme, à mon avis, elle a un récit peut-être qui limite le capitalisme à voilà, des phénomènes de marchandisation et d'appropriation privative, malgré tout, l'accent est mis sur ce qui, à mon avis, le bon moteur de l'histoire. Si on reprend le manifeste, toute l'histoire jusqu'à nos jours n'est que l'histoire de la lutte des classes, c'est-à-dire qu'elle remet ça au centre. Et c'est bien ce que Brenner fait, même s'ils n'en ont pas la même lecture, même s'ils ne le périodisent pas de la même manière, c'est quelque chose auquel ils donnent sa pleine centralité tous les deux. Et sur une autre question de cette périodisation, et plus spécifiquement sur la question des politiques reproductives, natalistes, malthusiennes, familiales, etc., un des textes, à mon avis, que le livre a suscité, qui est l'un des plus intéressants, c'est Antoine Artus, qui, dans Contre-temps, a fait une longue recension, extrêmement critique, mais en même temps très riche et qui rend hommage aussi au travail de Federici, du coup, du livre Caliban et la sorcière, dans laquelle il dit que, de la même manière, il y a malgré tout un problème dans sa périodisation aussi des rapports de parenté, des structures familiales, dans le sens où, finalement, si on considère que la famille nucléaire et la formation familiale, les rapports de parenté qui sont les plus... comment dire, qui sont...
Adéquats
au mode de production capitaliste, alors ils sont extrêmement... Leur pleine extension est extrêmement tardive, puisque, et Artus prend l'exemple plutôt de beaucoup d'historiens et historiennes féministes dans les années 80 qui ont travaillé là-dessus dans le cas de la France, certains d'ailleurs dans le sillage de Foucault, pour dire que voilà, les familles prolétariennes n'avaient rien de papa-maman les enfants, de la famille nucléaire traditionnelle avant la fin du 19e siècle. Et d'une part extrêmement contraignante, et d'autre part d'avantager ces modèles familiaux, notamment pour voilà, les grandes campagnes d'hygiénisme ou de natalisme de la fin du 19e siècle, la vague de disciplinarisation, le paternalisme patronal qui est aussi passé par un encadrement de la famille, d'une série de privilèges ou d'accessions à des avantages qui étaient liés au fait d'être une bonne famille nucléaire, etc., etc. Par contre, là aussi, où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que de la même manière qu'elle met au centre la question de la lutte des classes comme un moteur de la périodisation, elle met aussi au centre la lutte des genres, ou l'affrontement au sein du prolétariat entre hommes et femmes, comme aussi un moteur de cette périodisation. Et chez elle, ce qui est vraiment une des thèses les plus intéressantes à mon avis, c'est cette thèse du patriarcat salarié, c'est-à-dire vraiment que la famille nucléaire, si tant est que voilà, à son époque on puisse parler déjà de ça, provient d'un échec des luttes passées, c'est-à-dire que c'est bien la façon dont, pour le dire assez simplement, les hommes prolétaires ont été achetés par le salaire, et comment ils ont accepté d'appuyer, voire même d'être à l'initiative de politiques d'exclusion des femmes hors du marché du travail, de leur désautonomisation radicale, de politiques extrêmement morales à l'encontre de la prostitution, de l'infanticide, etc. Comment ils se sont fait complices du pouvoir capitaliste dans cette période-là, qui a créé cette famille nucléaire dans laquelle il y a un face-à-face hétérosexuel entre hommes et femmes, et où c'est l'homme qui a le commandement non seulement juridiquement sur le fonctionnement familial, mais aussi, et ce qui est plus central encore dans le capitalisme, monétairement, puisque c'est bien lui qui touche le salaire et lui qui choisit la manière dont ça sera utilisé et réparti dans le fond.
Une petite remarque de traducteur, c'est que dans le livre, et en anglais, on a classiquement le terme de household ou de householder, qui est donc celui qui détient le foyer, et qui ne se rend pas aussi bien en français. Hein, donc on va avoir chef de famille ou quelque chose d'équivalent qui ne contient pas de façon unitaire le caractère formel de cette appropriation, de cette détention du foyer. Household est vachement intéressant pour ça. Et donc dans les textes en langue anglaise, on a ça et on a unité du concept. Et donc ce qui est acheté, en fait, c'est l'ensemble du ménage. Mais évidemment, ça ne rend pas du tout la même chose quand on parle d'achat de la détention du foyer ou de la propriété de l'ensemble du foyer. Et de sa reproduction comme unité, et du ménage qui finalement tend à faire glisser l'idée de domestique, domus étant donc le foyer, l'équivalent, vers ce qui serait le ménage trivial, le nettoyage, etc. Or, non, en anglais, on a une unité beaucoup plus sémantique, beaucoup plus forte et beaucoup plus parlante des termes, qui est intéressante. On perd un peu à la traduction, donc on est obligé quand même de venir souligner, de venir, comment dire, rethéoriser dans le texte quand on perd ces éléments sémantiques.
Je voulais revenir sur des choses que tu as dites. Revenir à l'histoire de la première colonisation, par exemple quelqu'un comme Jérôme Bachet dans La civilisation féodale, lui il pense que La première colonisation, elle fait partie de la dynamique du féodalisme. Et c'est une tentative de résoudre, entre guillemets, la crise du féodalisme en s'étendant aux périphéries. C'est mené par des classes relativement marginales. Au départ, les marchands espagnols et portugais. Et je pense que c'est important de aujourd'hui, dans la théorie entre guillemets anticapitaliste, de aussi percevoir que il n'y a pas que, enfin c'est pas parce qu'un phénomène n'est pas capitaliste qu'il n'est pas problématique, qu'il n'est pas dégueulasse. Et en l'occurrence, c'est pas parce que la première colonisation est liée à la dynamique du féodalisme qu'elle est moins problématique que la deuxième. Elle pose tout autant de problèmes. C'est juste que c'est pas la même dynamique. Et là, on raisonne du coup à un niveau analytique et pas juste critique un peu morale ou je sais pas quoi. Après, la question du patriarcat d'Ancien Régime, je pense que c'est indéniable que sur plein d'aspects, ça prépare le patriarcat capitaliste. Donc on l'a dit sur le contrôle de la reproduction, aussi sur la question du début de l'exclusion des femmes du travail. Mais moi, de ce que j'ai lu par exemple dans un livre qui s'appelle Patriarchy at Work, d'une féministe qui s'appelle Sylvia Walby, elle dit que les politiques d'exclusion des femmes du marché du travail, certes ils existent avant le 18e siècle, mais ça devient surtout très fort après les années 1820-1830, où en gros il y a une espèce de compromis entre le patriarcat ouvrier et le capital. C'est-à-dire que le capital veut que les femmes travaillent parce que ça coûte moins cher et qu'il les paye à moitié prix. Le patriarcat...
Tu veux dire travail de façon productive.
C'est ça.
Ouais, d'accord.
C'est ça. Travail au sens capitaliste. D'un autre côté, le patriarcat ouvrier, lui... voilà, ça fait de la concurrence et en plus ça offre une autonomie financière aux femmes, donc du coup ils perdent, il y a plein de lettres, voilà, où ils disent qu'ils perdent le contrôle des femmes et puis ça pose des problèmes moraux, etc. Et enfin, du coup, ce qu'elle explique dans ce livre, c'est que du coup le compromis, c'est les femmes continuent de travailler mais elles sont exclues, soit il y a une ségrégation horizontale. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui sont réservés aux hommes, voilà. Et d'un autre côté, il y a une ségrégation et qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Et d'autre part, il y a une ségrégation verticale, c'est-à-dire qu'au sein d'un même métier, on va accepter les femmes, mais uniquement comme aides, voilà, ou comme et pas au niveau des métiers qualifiés, quoi. Et du coup, je conteste pas l'antériorité au 19e siècle de ce phénomène, mais il semble que déjà, bon, une grande partie de... À part en Angleterre, pour le coup. Et là, du coup, on est dans la dynamique de l'émergence du capitalisme, donc on est vraiment quelque chose dans autre chose. Il me semble que le salariat... elle parle beaucoup des villes, mais le salariat, ça reste quand même quelque chose de pas très très dominant, disons, en Europe, avant le 18e siècle. Et ce qui est de la phase un peu intermédiaire, même en Angleterre, au 17e et au 18e siècle, la marchandisation de la force de travail passe beaucoup par une espèce d'artisanat, et c'est vrai que l'artisanat, il se fait beaucoup à domicile, et donc, du coup là les femmes sont encore là et tout ça. Donc voilà, je pense que, enfin, autant je trouve hyper intéressant ce concept là dont tu as parlé de patriarcat salarié, autant peut-être qu'il prend en tout cas son ampleur véritable que à partir du 19e siècle. Et du coup ça me renvoie sur la dernière question. Sur le fait que finalement dans son livre il y a parfois un manque de... Parfois elle trace des grandes discontinuités, mais pour l'histoire du capitalisme globalement c'est un peu une espèce de... Entre le 15e et le 18e siècle, il n'y a pas vraiment trop de changements. Et après il y avait un petit truc sur la question du refus du travail. Dans l'émission, bon, un petit peu comme la critique de l'art, on a un concept plutôt historiquement spécifique de travail, au sens vraiment de... l'activité productrice de marchandises et l'activité vendue, enfin la vente de la force de travail. Et, Et du coup, autant, je pense qu'il ne faut pas non plus dire il n'y a pas pu avoir de refus du travail avant le 19e ou le 20e siècle. Mais effectivement, c'est pas exactement le même type de refus qu'aujourd'hui. C'était simplement une précision.
Juste sur ce truc-là du refus du travail dans l'opéraïsme, clairement, travail, et notamment plus tard, il y a le livre qui vient de sortir, La Horde d'Or, de Balestrini et Primo Moroni, qui est un excellent livre. Et c'est vrai. Et qui il y a un des jolis textes qui compose le livre, c'est un texte qui revient sur la question du refus du travail. Et ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est qu'il donne une extension maximale au terme de travail. Le travail, c'est clairement l'activité contrainte. Et il va même jusqu'à dire que le refus du travail est antérieur aux classes, puisque les classes commencent quand certains, ne voulant pas travailler, font travailler les autres pour eux. C'est assez amusant quelque part, mais c'est vrai qu'il y a une. Et de la même manière, le débat plus immédiatement lié à ce qu'on est en train de discuter sur travail, travail domestique. Est-ce que l'activité domestique peut être assimilée à du travail alors que, en quelque part, il n'est qu'un travail concret, qu'il n'est qu'une somme de travaux concrets, il n'est pas assimilé, à aucun moment il est mis en face d'une forme d'abstraction, d'équivalence généralisée que serait comme le travail abstrait productif sur le marché capitaliste. Du coup, même, il y a aussi des débats, mais c'est quelque chose qu'on retrouve déjà chez Marx. C'est une ambiguïté qu'il y a déjà. Des fois, il réserve le terme d'exploitation et du coup, par extension de travail, uniquement au capitalisme, uniquement au moment où il y a un échange monétaire sur la force de travail elle-même, qu'il y a un rapport entre travail et sur-travail, travail nécessaire et sur-travail qui passe par le salaire. Et d'autres fois, il parle vraiment juste de la question du sur-travail, comme production d'un sur-produit. Ouais. C'est une ambiguïté qu'on trouve qui est à la racine de. Je pense que c'est peut-être quelque chose avec lequel il faut arriver à être un peu souple en fonction de l'objet qu'on se donne et la focale et l'échelle.
C'est d'ailleurs le cas quand donc on n'est pas revenu sur pourquoi elle parle des commons, hein, les fameux communs et leur division. Cette privatisation des communs est corrélée à une modification de la contrainte sur le travail. Elle parle de modification du contrat social médiéval quand elle dit que finalement ce découpage de ce qui était détenu en commun se privatise et donc modifie la façon dont le surproduit extrait va être justement récupéré. Du coup, en fait, l'entrée dans sa périodisation à elle est celui-là. Et je reviens donc sur l'objet, la visée politique du livre, qui est de dire il y a aujourd'hui, à l'époque où elle a écrit le livre, liée aux années 80, une lutte sur la privatisation d'un certain nombre de choses commons. Donc on ne peut comprendre aussi ce terme-là que si on le resitue dans sa problématique générale, cette façon de dire que l'histoire a bougé à partir du moment où il y a eu ce mouvement-là et ce changement-là. Hein, c'est un curseur très très important. Du coup, voilà. Oui.
Bah, t'as raison d'insister sur ce point-là. Je pense que c'est clairement le projet politique que porte ce livre qui colore de cette manière sa périodisation. Et d'ailleurs, c'est à mon avis un des autres aspects sur lequel, au-delà de son caractère scientifique, historiquement sourcé, etc., sur lequel il est critiquable, mais là on rentre vraiment dans une critique plus clairement politique, c'est que dans ce projet des commons, et du coup en tant que communaux, comme bien commun partagé en dehors de toute appropriation privative, il y a une lecture du capitalisme qui est quand même relativement restreinte de ce qu'est le capitalisme, puisqu'il est assimilé à ce que je disais tout à l'heure, la marchandisation et l'appropriation privative. Du coup, finalement, la question, par exemple, de petit marché de subsistance n'est pas remise en cause. Elle est même à un moment défendue en tant que marge d'autonomie qui peut être gagnée par les groupes sociaux les plus exploités, les plus dominés. Ce qui est vrai, mais ce qui malgré tout ne fonde pas un dépassement du capitalisme en tant que tel. L'usage de ce réseau de petits marchés de subsistance.
Oui, avec l'image, la figure du marché dans le monde de la plantation que j'ai cité tout à l'heure. Donc voilà, il y a toujours des métaphores qui sont utilisées, et c'est ça là qu'on voit un projet politique, c'est quand certaines images très fortes, comme les corps brûlés et qui ont réellement été exterminés, mais sont dramatisées, comme à un moment donné, tu utilises ce mot, je ne sais pas si c'était maintenant ou avant, mais voilà, il y a une mise en avant d'un certain nombre d'images. Et le petit marché de subsistance est mis dans les chapitres.
Et un des enjeux du livre, un de ses buts, c'est de disputer au marxisme traditionnel sa vision téléologique et progressiste de l'histoire, dans laquelle le capitalisme est un mode de production transitoire vers le communisme, et en tant que tel, qui constitue par là un progrès. Et je pense que c'est une critique qui porte, qui est juste.
Oui.
En revanche, là où ça me paraît plus problématique, c'est dans la démarche inverse qui consiste à dire, puisque le capitalisme est vu presque de manière unilatérale et unidimensionnelle comme cette
catastrophe
qui détruit les marges de manœuvre et de pouvoirs sociaux dont disposaient les femmes, les paysans dans les modes de production précapitalistes, il y a parfois une apologie qu'on sent poindre des modes de production précapitalistes. Et clairement, là, on est dans une critique qui, à mon avis, est assez régressive du capitalisme et qui est pas sans poser problème. D'une part, parce que d'un point de vue presque normatif, j'ai envie de dire, le communisme ou le dépassement du capitalisme ne peut pas se faire sur la base de catégories telles que l'argent, le marché, l'État, etc., qui existent dans les modes de production précapitaliste malgré tout. Et d'autre part, d'un point de vue plus conjoncturel, il faut aussi penser, on peut penser aussi aux commons, à ces biens communaux, au travail de reproductif, aussi en tant qu'il est vu sous son aspect le plus sympathique, c'est-à-dire aussi comme travail reproductif dans les communautés les plus désœuvrées ou les communautés de lutte, peut être aussi une béquille du capitalisme. Tous ces aspects-là, le fait qu'existe en marge du capitalisme toute une série de personnes qui, certes, ne vendent pas leur force de travail, ne vendent pas l'ensemble de leur production au marché et sont dans des zones dans lesquelles, finalement, ils sont assez peu contraints par l'État, par exemple, ressemblent à l'heure actuelle plus aux bidonvilles et aux favelas brésiliennes que au petit marché paysan idyllique, enfin, pour le dire un peu rapidement.
Oui, oui.
Il y a quand même clairement cette vision des commons qui est très très idyllique à mon avis, alors que la crise et aussi l'accentuation et l'éjection hors du process de production immédiat de plus en plus de prolétaires fait des commons non pas un levier de dépassement du capitalisme, mais plutôt une contrainte de gérer la misère et voilà, la survie dans un cadre beaucoup plus restreint dans lequel ce n'est plus nous qui refusons le travail, mais c'est le travail qui nous refuse quelque part, dans le moment où le prolétaire devient redondant pour le capital, ou une partie d'entre eux en tout cas. Le prolétariat le plus subalterne, le moins qualifié, racisé, féminisé, etc., etc.
Et pour finir, puisqu'on parlait des enclosures, effectivement, c'est une des thèses centrales, c'est de lier les enclosures, la dissolution des communautés et du coup la remise en cause de l'autonomie des femmes. C'est vrai que je me souviens que dans l'article d'Artus, un argument qui m'avait paru décisif, c'était le fait que géographiquement, les enclosures se produisent massivement, disons, et avant tout en Angleterre. C'est vraiment, ça prend un phénomène massif. Il y a trois vagues. Il y a une vague au 15e siècle, une vague au 17e, et puis les enclosures parlementaires qui achèvent le processus de 1750 à 1850. Chose qu'on ne retrouve pas en France. Il y a un équivalent, le droit de triage, dans les années 1660, mais c'est juste une appropriation d'un tiers des communs par les seigneurs. Donc on est dans quelque chose de quand même de beaucoup moins massif. Et d'un autre côté, si on prend la carte des chasses aux sorcières, ce que disait Artus, c'est que c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que globalement, la chasse aux sorcières, elle se fait plutôt voilà, massivement en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, au Danemark, en France, dans le sud, et qu'en fait, finalement, c'est plutôt les espaces qui sont moins capitalistes.
Si le capitalisme repose sur le phénomène d'enclosure.
C'est ça, voilà. Si le capitalisme repose sur le phénomène d'enclosure. Après, là où on peut être relativement d'accord, c'est que là où elle a sans doute raison, c'est peut-être pas, il faudrait peut-être pas relier ça au phénomène d'enclosure, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène de dissolution un petit peu quand même à cette époque des communautés médiévales, voilà, avec du coup une individualisation et une familialisation entre guillemets des relations sociales, étant donné que ces relations sociales passent de plus en plus par les marchés, pas par le marché, mais par les marchés. Par les impôts et tout ça. Et effectivement, sa thèse n'est pas complètement fausse, mais enfin, en tout cas, sur le lien direct entre les enclosures et les chasses aux sorcières, bon, je pense qu'on peut être assez circonspect là-dessus.
Je pense que c'est là que la question du livre à thèse et de la boîte à outils et du chantier est importante. C'est que tout en gardant la thèse centrale qui est la nécessité pour le capitalisme non seulement de séparer le producteur des moyens de production, mais aussi, et là c'est le versant patriarcal du capitalisme, de séparer travail productif et travail reproductif, tout en gardant cette thèse, à mon avis, on peut faire beaucoup de modifications sur les moments historiques, les événements précis, la cartographie de ces phénomènes. À mon avis, c'est là où le livre est intéressant, c'est vraiment il ouvre un espèce de chantier. La thèse centrale, elle est relativement convaincante. Et d'ailleurs, c'était... Peut-être que la tentative n'est pas entièrement réussie, mais c'était bien l'objectif que Federici s'était fixé, puisque finalement, dans les années 70, dans le féminisme italien de l'époque, c'est bien comme ça qu'est compris le patriarcat dans le mode de production capitaliste, c'est cette séparation entre activité productrice de valeur et activité reproductrice de la force du travail. Et le projet au départ de Federici et de Fortunati était bien de montrer historiquement la nécessité. Une fois que cette nécessité-là avait été montrée théoriquement et logiquement, le but était de montrer du coup dans l'histoire, de la même manière que Marx, dans cette séparation permanente et nécessaire au capitalisme entre producteurs et moyens de production, il a dû trouver le moment historique, parce que voilà, le capitalisme n'est pas sorti tout armé de la cuisse de Jupiter où ça a eu lieu. Elle se donnait cet objectif-là, et à mon avis ce chantier-là doit être entrepris, et c'est quand même la première pierre qui est posée à cette tentative théorique-là.
Merci beaucoup de nous avoir présenté cet ouvrage très intéressant qui ressort donc ces jours-ci avec un changement de couleur. On mettra un certain nombre de liens pour approfondir l'émission, donc les articles de critique notamment de Artus et de Roland Simon, vers des choses qui ont été écrites par Sylvia Walby. Et aussi sur ce qui a déjà été fait, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, mais dans Sortir du capitalisme, notamment des notes de lecture de l'ennemi principal de Christine Delphi, et des modestes notes de lecture sur l'histoire de la virilité qui recoupe au moins donc le premier tome, recoupe un petit peu l'histoire de Caliban et la sorcière. Mais du coup avec un prisme qui est celui du point de vue des dominants pour le coup. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.